RCF.
Et c'est également en direct que nous vous accueillons à 18h10 pour le 18-19 en région, animé ce soir par Alexis Claudretz.
Effectivement, la soirée se poursuit à 18h10 sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes. On est très heureux de vous retrouver ce lundi. On vous accompagne pour 50 minutes de bonheur en plus sur nos antennes locales. Dans quelques instants, nous serons avec Jean-François Boulanger pour regarder sur le monde le thème de sa chronique aujourd'hui, l'Algérie, 4 ans après le Irak. On le retrouve donc dans quelques instants. Vous le savez, en première partie d'émission, il y a toujours un maire qui nous parle depuis la rentrée. On ira aujourd'hui du côté de Bouleuse dans la Marne, rencontrer l'édile de la commune, Patrick Simon. Aux alentours de 18h30, vous avez rendez-vous avec le journal régional. Aujourd'hui, dans l'actualité, on évoquera novembre, un mois sans tabac, rencontre avec Stéphanie qui a arrêté de fumer fin juillet et qui poursuit ses efforts depuis, mais aussi les chiffres de la sécurité routière dans la Marne qui sont inquiétants. On évoquera tout cela tout à l'heure à l'intérieur du journal. Famille Rurale parlera mobilité solidaire. L'association dans l'antenne du Sud-Ouest Marnais lance un appel aux bénévoles. Une rencontre et pas des moindres avec Jean-Marc Croze, le nouveau président du département de la Marne, sera dans nos studios pour nous dire comment il compte vivre son mandat, lui qui est à la tête du département de la Marne depuis 7 jours maintenant. Et puis enfin, nous serons avec Daniel Béra, une pièce de théâtre pour la prévention du mal-être, le coup de grâce. Ça sera la vice-présidente du département de la Marne, en charge de l'enfance notamment, qui sera avec nous. Sacré zoom sur le département de la Marne aujourd'hui, vous l'aurez compris dans cette émission. À 18h12, après le sommaire, on rentre dans le vif du sujet avec Jean-François Boulanger, en direct, en ligne, avec nous, par téléphone. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
L'Algérie, 4 ans après le Irak, c'est le titre de votre chronique du jour. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune vient de nommer un nouveau chef du gouvernement en Algérie, un événement qui peut sembler peu important dans le contexte international du moment, mais qui est pour vous l'occasion de faire le point sur l'Algérie, 4 ans après le mouvement du Irak qui avait vu des centaines de milliers d'Algériens, voire des millions, descendre dans la rue pour contester le régime en place. On en avait d'ailleurs parlé à l'époque sur RCF.
Absolument. Et d'abord, justement, quelques mots sur l'événement que vous venez d'évoquer, que nous avions évoqué à l'époque, le Irak. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a désigné samedi 11 novembre son directeur de cabinet, Nadir Larbaoui, 74 ans, pour occuper le poste de Premier ministre. C'est ça, c'est de cela que nous partons. Et ce changement de Premier ministre intervient un peu plus d'un mois après une réorganisation des services de la présidence, consistant à nommer 9 conseillers dont les missions semblent se dupliquer à ceux du gouvernement. Donc, et ces gens-là ont été nommés, et donc la mesure a été perçue par plusieurs observateurs comme la mise en place d'un gouvernement bis, signe d'une volonté de centraliser davantage la prise de décision. Autrement dit, en Algérie, aujourd'hui, 4 ans après le Irak, le pouvoir est plus que jamais vertical.
Je me permets, Jean-François Boulanger, je fais une courte traduction pour nos auditeurs, mais ce que vous venez de dire semble impliquer que nous sommes loin du Irak quand même.
Absolument, hein, très loin. Et rappelons simplement que le Irak, c'était manifesté par le fait que, à une époque où il était justement interdit de manifester depuis la décennie noire, c'est-à-dire la guerre civile contre les islamistes, des milliers d'Algériens s'étaient mobilisés spontanément contre la perspective à l'époque d'une nouvelle candidature du président Bouteflika, la 5e candidature, alors que son état de santé ne lui permettait guère de gouverner. Et donc, à la suite de ces manifestations, l'armée avait poussé Bouteflika vers la porte. Le mouvement ne s'en était pas satisfait et avait souhaité justement que l'armée ne joue plus un rôle politique prédominant comme celui qu'elle avait joué depuis 1962. Et l'armée avait tenté alors de reprendre en main les choses et il avait été aidé dans cet objectif d'ailleurs par l'épidémie de Covid et le confinement qui avait permis d'arrêter les manifestations et d'isoler les militants, que ces manifestations ne protégeaient plus. C'est dans ce contexte-là que Tebboune s'est présenté aux élections présidentielles et le 12 décembre 2019, après une campagne perturbée par des manifestations importantes jusqu'au jour même de l'élection, Abdelmadjid Tebboune avait été élu par 58% des suffrages exprimés au premier tour, mais avec une abstention record puisqu'elle atteignait le taux de 60% des inscrits.
Des chiffres que l'on va décrypter si vous voulez bien, Jean-François.
Tout à fait. Hein. Alors la candidature de Tebboune peut être interprétée de plusieurs façons à l'époque. Certains retenaient que Tebboune avait été, à l'époque de Boumédienne, victime d'une disgrâce parce qu'il avait critiqué les agissements de l'entourage du président, et notamment son frère, qui avait fini par obtenir son départ. Et donc, pour toute une catégorie d'électeurs, Tebboune était peut-être celui qui allait permettre de sortir du système, d'autant que on disait qu'un autre candidat avait les faveurs des proches du régime. Par contre, pour d'autres Algériens, d'autres électeurs, il n'était que celui qui allait rafistoler le dit système, d'où ce très grand scepticisme manifesté par l'abstention de la majorité des électeurs.
Si l'on fait un point, 4 ans après, quelle interprétation semble devoir l'emporter désormais, Jean-François ?
Eh bien, 4 ans après, il est clair qu'une reprise en main a bel et bien eu lieu contre le mouvement populaire, le Irak, et qu'il ne reste pratiquement plus rien de ce mouvement.
Et comment ça s'est traduit sur le terrain ?
Alors, le régime a bénéficié d'abord de l'absence de structuration interne de ce mouvement, qui n'a jamais trouvé de réel débouché politique alternatif au pouvoir. Ensuite, le régime a agité auprès de la population un certain nombre d'épouvantails pour faire passer la répression qui s'est abattue sur les militants. Le premier épouvantail, c'est celui du séparatisme qui menaçait la nation algérienne. Ça visait en fait les Kabyles, qui sont très contestataires. Et le deuxième, c'était l'islamisme qui traumatisait les Algériens depuis cette fameuse décennie noire pendant lesquelles de véritables massacres avaient eu lieu. Et la répression a pu s'appuyer sur une réforme du code pénal en juin 2021 qui permettait de condamner pour terrorisme ou sabotage tous ceux qui contestaient le régime en appelant par exemple à des manifestations. Ajoutons que ça continue jusqu'à aujourd'hui puisque une loi votée pendant l'été 2023 et qui vient de se traduire par des décrets publiés il y a quelques semaines, limite aujourd'hui le droit de grève et la liberté syndicale. Le secrétaire général de l'UGTA, qui pourtant un syndicat proche du pouvoir, s'était opposé à cette loi, mais une semaine avant que le Parlement ne la vote, il se trouve qu'il a démissionné pour raison de santé. Et tout le monde n'a pas forcément cru que c'était la véritable raison. Autrement dit, on l'avait poussé dehors. Et la nouvelle loi va permettre en fait de faire disparaître de nombreux syndicats autonomes par rapport au pouvoir. Par contre, dans le même temps, un comité interministériel qui se chargeait de faire des redressements fiscaux musclés en dehors du cadre législatif habituel a vu son activité arrêtée à la suite du coup de colère de la présidente d'un important syndicat patronal. Ajoutons cependant que cette présidente du syndicat patronal avait pris la précaution de se mettre à l'abri à l'étranger avant de protester, ce qui donne une idée de la manière dont le régime, effectivement, traite l'opposition.
Oui, j'allais dire, Jean-François Boulanger, l'opposition, elle aurait pu monter au créneau, protester davantage. Alors, comment l'opposition et la société civile réagissent-elles à tout cela ?
Alors, la vie politique est quasiment éteinte. Hein. Le Parlement est une chambre d'enregistrement. Un certain nombre d'associations ont été dissoutes. C'est le cas du Rassemblement Action Jeunesse, qui avait joué un rôle pendant l'Irak, ou de la Ligue algérienne des droits de l'homme, dont le dirigeant a dû, le 26 juin dernier, partir en Belgique pour se réfugier. Et il en est de même, par exemple, localement, pour une association très active qui s'appelle SOS Bab El Oued, ce quartier populaire d'Alger, très vivant. Un certain nombre de journalistes ont été également emprisonnés et condamnés au nom justement de cette loi contre le terrorisme. Et l'Algérie, qui disposait d'une presse relativement libre, en tout cas pour un pays arabe à l'époque de Bouteflika, aujourd'hui n'est plus dans cette situation-là. Hein. Le pouvoir réussit à mater les journaux par le biais de l'argument économique, c'est lui qui a le monopole en fait de la publicité. Et donc le quotidien Liberté a disparu et l'autre grand quotidien d'opposition, El Watan, aujourd'hui végète. Ajoutons qu'il y a à peu près 300 prisonniers d'opinion en Algérie, et des centaines, voire des milliers d'opposants qui sont contraints à l'exil, en France et plus encore au Canada, parce qu'en France c'est très difficile pour même les opposants d'avoir un visa. Ils vont aussi en Tunisie, parce que là c'est facile, c'est à côté de l'Algérie, mais il se trouve que le président tunisien, Kais Saied, entretient désormais de bonnes relations avec l'Algérie, ce qui rend fragile la situation de ceux qui sont venus se réfugier à Tunis et qui peuvent être extradés à tout moment.
Lorsque l'on regarde sur le monde Jean-François Boulanger, on lit l'histoire avec l'actualité. Comment le régime et la société algérienne ont-ils réagi face à la guerre à Gaza?
Alors justement, c'est assez surprenant parce qu'on a très peu parlé de manifestations en Algérie, parce que justement les manifestations sont interdites depuis la fin du Irak et le régime veut éviter justement que ces manifestations aient lieu. Et pourtant, la solidarité avec la Palestine est une constante du régime algérien depuis sa naissance. Symboliquement, d'ailleurs, l'Algérie avait décidé d'accueillir sur son sol les matchs de l'équipe de football de Palestine, ce qui ne se fera pas finalement parce que la FIFA a refusé que la Palestine aille jouer ailleurs qu'en Asie. Il n'empêche, les Algériens ne peuvent que constater qu'alors que leurs voisins marocains, dont le régime avait pourtant reconnu Israël, avaient eu la possibilité de manifester publiquement et en masse leur solidarité avec les Palestiniens, eux, Algériens, n'avaient pas le droit de sortir dans la rue pour manifester cette solidarité. Pourquoi ? Parce que le régime craignait des manifestations qu'il ne pourrait pas contrôler. Mais finalement, le 13 octobre dernier, une manifestation avait eu lieu, organisée par des islamistes notamment, qui avaient été réprimés sans ménagement. Donc le régime avait décidé, face à cela, d'organiser des manifestations avec l'assentiment plus ou moins spontané d'un certain nombre de partis plus ou moins d'opposition, comme le Front des Forces Socialistes. Et le régime a peut-être trouvé là, si je puis dire, une soupape de sécurité, manifestation très très contrôlée. Il était hors de question, par exemple, que les manifestants aillent devant, admettons, l'ambassade de France.
Quelques mots pour conclure très rapidement, Jean-François Boulanger, pour revenir à notre point de départ. Que signifie donc le changement de Premier ministre décidé par le président Tebboune?
Alors, justement, nous sommes à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle algérienne qui est prévue en décembre 2024. Et donc, Tebboune, en fait, semble se préparer à briguer un second mandat lors de ce scrutin. Il a aujourd'hui 77 ans. Le nouveau Premier ministre en a 74. Alors, il n'a pas encore officiellement pris sa décision, mais on ne voit pas ce qui pourrait s'opposer à cette candidature. Aucune candidature alternative n'apparaît pour le moment, candidature sérieuse, et Tebboune a toujours la confiance de l'armée, ce qui est fondamental en Algérie. Donc voilà, on a le sentiment qu'on est revenu à une forme de gérontocratie, 77 et 74 ans, comme à l'époque de Bouteflika finissant, à l'époque où rien ne semblait s'opposer à son cinquième mandat, et on pourrait se poser la question de savoir si 4 ans après, on n'est pas revenu au point de départ.
Eh bien, on aura l'occasion d'en savoir plus avec vous, certainement très prochainement. On sait que vous êtes attentif à la situation, Jean-François Boulanger. À bientôt.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Pour le plus grand malheur de nos techniciens, on a pris un petit peu de retard. Pour le plus grand malheur aussi de Patrick Simon, le maire qui nous attend au téléphone pour répondre aux questions de Jean-Pierre Benoît. Patrick Simon est maire de Bouleuse et les questions, vous l'avez compris, elles sont posées comme tous les soirs par Jean-Pierre.
Patrick Simon, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous présenter un peu votre commune de Bouleuse? Combien d'habitants à Bouleuse?
Alors, 230 habitants, on va dire, avec les derniers qui vont arriver. C'est une commune qui se développe tranquillement. On n'a pas souhaité avoir une extension massive. D'ailleurs, bon, je vous expliquerai, chemin faisant, je pense, pendant l'interview, les difficultés liées au PLU.
Plan local d'urbanisme.
Plan local d'urbanisme, oui. qui va devenir intercommunal.
D'accord.
Et pour le coup, ce plan local d'urbanisme, bon, il génère, au travers des lois gouvernementales aussi, un certain nombre de restrictions, dont on aura sans doute l'occasion de parler. Mais pour le coup, on a un développement tranquille, quoi. L'idée, c'est de pas dégager des dizaines de terrains d'un seul coup, parce qu'il faut que les infrastructures suivent. Et malheureusement, les finances des communes rurales ne sont pas forcément au rendez-vous pour ce genre de travaux.
Alors vous, Patrick Simon, comment êtes-vous devenu maire? Vous étiez déjà toujours intéressé par le monde associatif, par les responsabilités? Vous étiez au conseil municipal?
Alors pas du tout, c'est pas dans mon ADN. En fait, si vous voulez, j'ai fait l'essentiel de ma carrière, moi, dans l'électricité. J'ai travaillé pendant presque 38 ans au sein de DFGDF. Puis en 2013, je travaillais sur Paris, j'avais un poste assez prégnant et donc j'ai décidé de changer un peu, d'orienter ma carrière autrement. Et j'ai créé une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc vous voyez, j'étais pas du tout tourné vers... les communes. Enfin,
mais cas, c'était, on a c'était fait appel à vous, on est venu vers vous pour que vous soyez maire.
Absolument. En fait, quand le maire en place a su que je quittais mes fonctions et que je créais une société plutôt dans le coin, qu'il est venu me voir pour savoir si ça m'intéresserait d'accompagner la commune pour essayer de travailler un petit peu avec lui. Sauf que donc je suis arrivé sur la pointe des pieds en 2014 en me disant je vais être conseiller municipal et puis je vais voir comment ça se passe, mais je me suis retrouvé déjà premier adjoint à ce moment-là, donc j'ai fait un mandat en tant que premier adjoint, et puis en 2020...
Et puis vous êtes devenu maire en 2020.
Je suis devenu maire, donc l'idée c'est aussi la relation aux autres qui m'intéressait, vous voyez, le sentiment de pouvoir un peu servir...
Être au service.
Améliorer le quotidien de nos habitants,
et puis surtout
je voulais faire évoluer la commune, mais ça on pourra en parler.
Comment peut-on caractériser votre commune aujourd'hui, le type d'activité, les habitants, des personnes âgées, en retraite, des agriculteurs, des jeunes qui s'installent, c'est quoi Bouleuse aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, Bouleuse, effectivement, c'est une commune où, bah, comme beaucoup de communes rurales, il y a un certain nombre de retraités. Mais au travers, je vous dis, les terrains à bâtir qu'on a lâchés en mode un peu diffus, on a réussi à faire revenir des jeunes sur Bouleuse, en fait. Et donc aujourd'hui, c'est une population qui rajeunit, quoi. On a quand même beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, et on a une 30-35 enfants. À peu près dans la commune, ce qui crée un peu d'animation.
Alors, vous avez une école? Non, vous n'avez pas d'école.
Alors non, on est rattaché à un groupe scolaire, hein, juste à côté de Bouleuse, hein, le groupe scolaire de Favrolles. Et du coup, nos plus petits vont à l'école sur ce groupe scolaire. Ensuite, le collège, en fait, c'est eux. Et puis après, le lycée, c'est des lycées.
Alors, hein. Est-ce que vous avez senti, puisque vous êtes arrivé au moment du Covid, qu'il y avait une demande, parce que les logements, les maisons sont quand même moins chers qu'à Reims, des jeunes qui disent, ben, si on a un petit jardin, si on a quand même, si on est, j'allais dire, comme on dit un peu familièrement, à l'air, on sera mieux quand même dans une commune rurale. Il y a des demandes dans ce sens?
Oui, le Covid a changé effectivement un peu la donne, et c'est aussi en fait que les communes doivent se moderniser, c'est que, alors, c'est fait aujourd'hui presque partout, mais si on remonte il y a 3-4 ans, par exemple, ici à Bouleuse, il n'y avait pas la fibre. Une des principales motivations des gens pour venir habiter à la campagne, et qui plus est maintenant avec le travail à domicile, puisque aujourd'hui, le télétravail est quand même particulièrement développé, donc pas question de télétravail sans avoir un réseau Internet qui fonctionne bien, quoi. Donc en fait, ça, c'est vraiment des travaux que moi, j'ai tenu à mettre en place le plus rapidement possible. Et effectivement, ça a du coup attiré des jeunes couples qui voulaient se sortir un peu des villes, qui cherchaient des terrains. Alors, les terrains, effectivement, sont pas chers à Bouleuse, parce que les propriétaires de ces terrains ne souhaitent pas avoir des prix extrêmement élevés, justement, pour contribuer à l'essor de la commune, quoi.
Alors justement, le temps passe très vite avec vous, oui. Patrick Simon, pour aborder les sujets. Juste une petite question. Maintenant, c'est les communautés de communes, maintenant c'est le Grand Reims. Est-ce que le maire est toujours un peu, entre guillemets, le patron de la commune? Vous connaissez tout le monde à Bouleuse.
Oui. Alors... Si vous voulez, moi je ne me suis pas positionné comme maire, comme étant un patron. Et c'est pour ça qu'effectivement, je sais que certains de mes confrères se disent qu'ils ont perdu plein de pouvoir. Vous savez, dans nos communes rurales, les possibilités financières ne sont pas
infinies,
quoi. Mmh. Eh bien oui. Donc pour le coup, être dans une communauté de communes, et notamment le Grand Reims, ça m'a permis quand même de passer des dossiers extrêmement importants qu'on n'aurait pas pu mettre en place sans être intégré dans une communauté.
Alors, avez-vous justement, je vous interromps un peu, parce que le temps passe très vite, Patrick Simon, avez-vous des projets en cours, à moyen ou à long terme, pour la commune? On imagine la voirie, on imagine peut-être d'autres sujets.
Voilà, alors effectivement, on vient de terminer des gros travaux. J'ai réussi à faire passer le dossier d'assainissement collectif, qu'on appelle pompeusement tout à l'égout, hein, dans une petite commune rurale. On a fait des travaux de renouvellement d'eau potable, parce que le rendement du réseau était plus que médiocre et il y avait des fuites partout. Donc, par les temps qui courent, c'est bien aussi de pouvoir faire des économies. J'ai fait refaire de la voirie également. J'ai fait de l'enfouissement de réseau également. J'ai fait amener la fibre dernièrement. On a remplacé presque la moitié dans la commune tous les carrages publics par des LED. Paradoxalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour gagner de l'argent, à terme, il faut investir aujourd'hui. Quand des ouvrages sont trop vieux, si on prend le cas pour l'eau par exemple, Bah, s'il y a des fuites partout, c'est pas en vous appuyant sur un réseau d'eau vieillissant que vous allez.
Et certains maires nous disent, Patrick Simon, par exemple, quand vous poserez du goudron. Autrefois, on mettait dans un village du goudron sur la route, les trottoirs, on s'en fichait un petit peu. Maintenant, il y a l'environnement, il y a le développement durable. Vous essayez quand même peut-être de mettre des plantes, de la végétation. Couples qui viennent, ils sont attachés aussi à tout ça maintenant. C'est très important.
Ils sont très attachés à tout ça. Alors, on travaille, si vous voulez, moi, dans la commune, j'ai réparti correctement les charges. Si vous voulez, je travaille pas tout seul. On est une équipe assez dynamique. Alors, moi, je m'occupe, vous l'aurez compris, du développement communal, des perspectives d'avenir et de tout ce qui pourra ramener de la population à Bouleuse. Mais mon premier adjoint, lui, gère tout ce qui est opérationnel et s'occupe de notre ouvrier communal. Et on a un deuxième adjoint qui s'occupe de toute la partie environnement.
Et des perspectives, il y en a du côté de Bouleuse, le maire de cette commune dans la Marne, donc, que vous pouvez retrouver plus complètement sur le site rcf.fr en rubrique programme. 18h30, passé de 45 secondes, c'est l'heure du journal régional. Avec les titres de ce lundi 13 novembre 2023, la préfecture de la Marne a dévoilé jeudi les derniers chiffres de la sécurité routière. 35 personnes ont été tuées sur les routes de la Marne en 2022, déjà 31 personnes tuées en 2023. Novembre, mois sans tabac, rencontre avec Stéphanie qui a arrêté de fumer fin juillet et qui poursuit ses efforts depuis.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
La marche contre l'antisémitisme de ce dimanche a rassemblé 180 000 personnes à travers la France, selon le ministère de l'Intérieur. Une initiative largement suivie en région. À Reims, plus de 1 000 personnes étaient rassemblées, place Simone Veil, à l'appel du maire de Reims, Arnaud Robinet. De nombreux élus, parmi lesquels Jean-Marc Rose, nouveau président du département de la Marne, qui sera notre invité dans quelques minutes, mais aussi Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, de nombreux maires de communes alentours également, mais encore Franck Leroy, président de la région Grand Est. Parmi les acteurs de la vie publique présents à cette manifestation, on note la présence de Mgr Éric de Moulin-Beaufort et de Mgr Étienne Véteux, respectivement archevêque et évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. À Charleville-Mézières, près de 300 personnes étaient rassemblées ce dimanche. En 2022, dans la Marne, l'accidentalité compte 581 accidents corporels, dont 32 accidents mortels, soit 5,5% des accidents, induisant 35 tués et 685 blessés. Au 31 octobre 2023, sont comptabilisés 468 accidents corporels, dont 27 mortels, induisant 31 tués et 574 blessés. Une situation préoccupante pour le préfet de la Marne, Henri Prévost.
En blessés hospitalisés, c'est déjà le cas. Dès cette période, on est déjà à un bilan en termes de personnes hospitalisées qui dépasse celui observé sur l'ensemble de l'année 2022. Sur le nombre de tués, on est tout près. On a déjà 31 tués sur les routes. L'année dernière, on en a eu 35. Il faut vraiment mettre un coup d'arrêt. Les causes sont souvent multifactorielles. Il y a évidemment toujours un peu de vitesse, mais une vitesse qui peut être soit excessive par rapport à la vitesse limite, soit une vitesse inadaptée.
Effectivement, les causes des accidents mortels sont nombreuses, non-respect du code de la route, alcool, mais aussi fatigue. Henri Prévost.
On l'observe d'ailleurs dans la temporalité des accidents, parce que beaucoup d'accidents là sur nos routes arrivent à un moment de fin de journée. On voit, ce sont des gens qui rentrent du travail, qui ramènent leurs enfants, et malheureusement, ils vont pas réagir comme ils devraient. Donc il faut aussi en être conscient pour redoubler de précautions, redoubler de prudence. La conduite sur une route, c'est jamais un acte banal. C'est toujours un acte sur lequel il faut être prudent, il faut être en forme.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Au 31 octobre dernier, 81% des accidents mortels se sont déroulés hors agglomération. 17 accidents mortels ont eu lieu le jour et 8 la nuit. Pour lutter contre ces accidents, des actions du pôle sécurité routière de la préfecture de la Marne sont organisées. Par exemple, le 15 novembre, c'est un mercredi, c'est mercredi prochain, avec une session de remise à niveau du code de la route à destination des seniors à Châlons-en-Champagne, ou encore le lundi 27 novembre, avec une session de sensibilisation au risque de l'alcool au profit de personnes en suivi SPIP-TIG à Reims. Depuis le 1er novembre, nous sommes dans le mois sans tabac. La 8e édition déjà de cette campagne nationale d'aide à l'arrêt du tabagisme, elle a pour but d'inciter les fumeurs tous ensemble à arrêter pendant 30 jours. Un mois qui permet aussi d'encourager à continuer ceux qui ont déjà commencé à arrêter depuis quelques temps, comme Stéphanie que nous avons rencontrée à Cormontreuil près de Reims. Elle a arrêté de fumer la dernière semaine de juillet.
C'est quand même une démarche qui est difficile, même en n'étant pas un gros fumeur. Moi, j'étais à peu près à 3 cigarettes par jour. Et non, c'est quand même difficile, mais je m'accroche. Il y a un gros mental dedans. Ça faisait déjà plusieurs temps que j'y pensais. Et puis parce que mon fils de 6 ans, il m'a dit, avec toute l'innocence qu'il a, moi, quand je serai grand, je ferai comme maman et je fumerai des cigarettes. Et de toutes les choses positives que je peux faire, il a retenu une chose négative et ça m'a beaucoup chagrinée.
Arrêter de fumer, oui, non pas sans mal. Au départ, certaines cigarettes ont manqué à cette jeune femme qui continue de résister aujourd'hui.
Des cigarettes plaisir, quoi. Celles d'après-manger, celles du soir, elles ont été les plus difficiles pour moi. Oui, il y a encore des moments de faiblesse. Moi, presque 4 mois après, c'est encore difficile. En soirée, avec les amis, c'est les moments où j'y pense le plus. Et j'ai encore du mal au boulot. Il y a certaines habitudes qui restent, notamment quand j'arrive le matin, faire le tour, dire bonjour aux collègues, boire le café, fumer la cigarette ensemble. C'est encore une étape qui, certains jours, est très présente, compliquée.
Et dans cet effort quotidien, le mois de novembre sans tabac arrive à pic pour pousser Stéphanie, déjà bien encouragée par ses proches, sa famille, ses enfants, ses amis, à persévérer.
J'ai vu des pubs, j'en avais déjà entendu parler les années précédentes, mais bon, je me sentais pas concernée. Et du coup, je me suis inscrite, j'ai pris le kit et j'ai téléchargé l'application. Je m'en sers essentiellement pour savoir les économies que j'ai faites. Et puis du coup, je les place, je les mets de côté et là, j'en suis à presque 500 euros d'économies.
Voilà comment joindre l'utile à l'agréable, des propos recueillis au micro de RCF France-Ardennes. Le tabac représente encore aujourd'hui 75 000 décès par an en France. Le tabagisme actif est la première cause de mortalité évitable sur le territoire. Sport, football, il n'y a pas eu d'exploit pour le Stade de Reims samedi. Le Paris Saint-Germain est venu s'imposer 3-0 à Delaune. Les Rémois sont désormais 5e de Ligue 1. Les Rémoises aussi sont 5e de leur championnat à D1 Arkema. À la maison, les Rouges et Blanches ont concédé le match nul 0-0 face au Havre. En Ligue 2, l'Estac est retombé dans ses travers samedi soir. Défaite 1-0 à Ajaccio, 3 et 17e du championnat. En basket, le Champagne Basket s'est rassuré en décrochant un deuxième succès en 6 journées de Pro B. Victoire 80-76 face à Évreux. L'Alliance champenoise remonte à la 13e place en Ligue A de volley. Chaumont a réalisé un sacré coup en s'imposant 3-7-0 sur le parquet de Tours. Nouvelle semaine, nouveau stagiaire. C'est Kylian Janot qui est avec nous ce lundi. Il va rester jusqu'aux vacances de Noël. Ne vous inquiétez pas. Manon est en repos aujourd'hui. Vous la retrouvez dans la semaine, c'est promis. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la météo. Bonsoir Kylian, bienvenue à RCF France-Ardennes. Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardennes pour demain mardi?
Bonjour Alexis. Pour demain, la température climatique se maintiendra dans la région avec des conditions pluvieuses. Les précipitations devraient persister tout au long de la journée, accompagnées de ciels nuageux. Malgré ces averses, les températures affichées resteront relativement douces, s'approchant des 15 degrés Celsius, que ce soit à Troyes ou à Saint-Dizier au cours de l'après-midi. Le matin, nous aurons le mercure qui montera jusqu'à 14 degrés Celsius dans les villes de Châlons en Champagne ou bien de Charleville-Mézières. Pendant la journée de demain, une brise de vent légère est prévue à travers l'ensemble de la région. Cette douce brise accompagnera les températures agréables, ajoutant une touche de fraîcheur à cette journée. Demain, mardi 14 novembre, nous fêterons les Sidoines.
Merci Kylian, on te retrouve très bientôt sur les antennes de RCF en région. Ainsi se referme le 18-19 en Champagne, en tout cas son journal, parce que le magazine régional, lui, il continue jusqu'à 19h.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières,
18h39 dans ce magazine régional, l'antenne du Sud-Ouest Marnais de l'association Famille Rurale lance un appel aux bénévoles dans le cadre de son dispositif Mobilité Solidaire. Elle recherche des nouveaux conducteurs. Zoom sur ce dispositif avec François Mercier, coordinateur sur le territoire, chargé de la mobilité sur le pays de Brie, et Séverine Comeau, chargée de territoire. Ils sont au micro RCF Cœur de Champagne de Christian Lanciot. Bonsoir Christian.
Bonjour à toutes et à tous. François Mercier, comment fonctionne donc ce service depuis maintenant 3-4 ans?
Alors oui, la mobilité solidaire a démarré en 2018 sur le secteur Briey-Champagne, là où on se trouve, mais également à d'autres endroits dans le département. Le principe, c'est que ce sont des conducteurs bénévoles qui vont transporter des personnes sans moyen de déplacement. Ça peut être pour tout type de trajet. On a quand même quelques conditions pour ces trajets. Alors la première condition, c'est que pour pouvoir utiliser ce service-là, il faut soit avoir 60 ans ou plus, soit bénéficier de l'allocation adulte handicapé, ou soit être bénéficiaire du RSA. Une fois que le bénéficiaire est inscrit, alors Séverine va détailler un petit peu comment se passe cette inscription, mais en tout cas, une fois qu'il est inscrit, il contacte notre standard pour faire part de sa demande. Et nous, au niveau de Famille Orale, on cherche un conducteur parmi ceux qui sont inscrits chez nous, disponible pour l'emmener à son rendez-vous.
Vous nous faites part un peu de l'évolution du service depuis maintenant 5 ans, puisque ça fait 5 ans, 2018-2023.
Alors, c'est un service qui se développe, alors en particulier sur le secteur Briey-Champagne, qui a toujours été...
À la pointe,
voilà, c'est ça. Alors, si on regarde, par exemple, les chiffres depuis l'année dernière, on était à peu près 130 bénéficiaires inscrits sur tout Briey-Champagne. Là, on est à presque 160, déjà, là. Bon, les conducteurs, on est à peu près stable, avec une dizaine de conducteurs sur ce secteur-là. Au niveau du nombre de trajets, on en a fait 480 l'année dernière, et là, fin septembre, on était déjà à plus de 600, 623 exactement.
Donc ça fait une évolution de plus de 20%.
C'est ça. Donc ça, le nombre de trajets évolue beaucoup. Le nombre de kilomètres parcourus évolue, mais moins vite. On était à un peu plus de 26 000 l'année dernière. Là, on a atteint les 26 000 quand même déjà fin septembre.
On va donner la parole à Séverine. Alors vous recevez la demande, vous allez voir les bénéficiaires. Comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Dès que j'ai la demande, en général, j'ai les coordonnées précises, soit parce que les gens ont appelé la plateforme, soit parce que c'est des partenaires qui nous l'ont proposé. Je prends contact avec eux, je prends rendez-vous, je vais à domicile, je leur explique bien en détail le service de mobilité solidaire. Si je vérifie les conditions d'accès, si elles sont vérifiées, je commence le dossier d'inscription. Une fois que tous ces papiers-là sont lus et signés, j'ai une conversation avec le bénéficiaire pour vérifier son état de santé. Parce qu'il faut quand même vérifier que cette personne est apte à monter et descendre de voiture, apte à faire ses courses, par exemple, plus ou moins en autonomie, puisque les conducteurs peuvent accompagner les courses. Mais il faut quand même que la personne puisse se déplacer et avoir un comportement, j'ai envie de dire, adéquat. C'est-à-dire...
Les conducteurs ne sont pas infirmiers, quoi.
C'est tout à fait ça. On ne peut pas les mettre en difficulté parce qu'ils sont bénévoles et qu'ils ont un grand cœur, mais ils ont aussi des limites et on ne veut pas les mettre en difficulté. Voilà.
Vous avez un besoin de conducteur?
Alors, on a un besoin de conducteurs parce que les inscriptions de bénéficiaires sont exponentielles, parce que le bouche à oreille fonctionne bien, parce que les partenaires jouent le jeu, tout le monde joue le jeu, parce que c'est un service qui répond vraiment à un besoin. Et du coup, on a besoin de conducteurs bénévoles parce que, comme ils sont bénévoles, ils ont aussi la garde de leurs petits-enfants, ils ont des activités de loisirs, etc. Et du coup, on a besoin quand même d'avoir un roulement qui se fasse sans qu'on ait la pression, on n'aime pas refuser des demandes de trajet. Voilà.
Bien, ben alors on va demander à François, puisque s'il y a des bénévoles qui veulent venir, il va nous dire comment contacter, par téléphone ou...
Oui, ben le plus simple, c'est le téléphone. Ça permet déjà d'avoir un échange directement avec la personne. Donc le numéro de téléphone, c'est 06 42 83 56 07. Et puis là, donc on va avoir un premier échange avec la personne, hein, voir si elle a bien compris ce qu'était mobilité solidaire, qu'est-ce qui l'a attiré pour faire ça. Et puis rapidement, on lui propose de la rencontrer. Pour en parler encore plus. Si ça peut se faire tout de suite, on l'inscrit, hein, on vient avec le dossier d'inscription et la personne s'inscrit, et on lui remet ce qu'on appelle, nous, une mallette de conducteur, donc des choses dont elle va avoir besoin pour ses trajets, notamment un carnet avec des reçus, etc. Enfin voilà. En tout cas, elle devient conducteur bénévole officiellement.
J'espère qu'avec tout ce que vous avez dit, vous avez donné envie d'avoir envie aux futurs conducteurs bénévoles du coin de Cézanne, Montmirail, Fère-Champenoise, enfin on va dire le sud-ouest de Marnay.
Merci Christian Lancio depuis Cézanne. Vous pouvez retrouver l'association locale sur sa page Facebook Mobilité Solidaire Marne. Mobilité Solidaire est également accessible aux habitants de la communauté de communes Côte de Champagne et Val-de-Sault.
Le 18-19 sur RCF.
La suite de cette émission, c'est une rencontre, et pas des moindres, avec le nouveau président du département de la Marne, Jean-Marc Rose, élu il y a 7 jours tout pile. Il est notre invité ce soir dans le 18-19 régional avec Jean-Pierre.
Jean-Marc Rose, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors, il y a une mobilisation hier contre l'antisémitisme. Évidemment, vous étiez de cette manifestation sur place à Reims, Jean-Marc Rose.
Oui, il y avait, je crois, 1500 personnes sur 2-3 départements, mais il y avait 1000 personnes à Reims. Donc c'était une manifestation contre l'antisémitisme. Et comme l'a dit Monsieur le maire dans son discours, l'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs. C'est l'affaire de tous ceux qui croient en la fraternité.
Mobilisation, donc, on aura l'occasion d'y revenir. Vous y étiez, Jean-Marc Rose, on y reviendra dans l'actualité. Il y a 8 jours, jour pour jour, vous avez été élu lundi dernier président du conseil départemental de la Marne. On s'attendait à un score serré avec votre challenger, Julien Valentin, et il n'a pas été serré. Vous avez fait quand même une grosse différence, 32 voix contre 14 voix. Vous avez été surpris?
Oui, j'ai été surpris, agréablement surpris, bien entendu, puisque j'ai cette responsabilité qui m'a été donnée par l'ensemble de mes collègues, en tous les cas ceux qui ont voté pour moi, ce qui m'explique, en tous les cas me prouve qu'il n'y a pas que les Rémois qui ont voté pour moi, il y a aussi beaucoup de ruraux, qui fait que l'ensemble me donne une certaine légitimité.
Alors justement, serez-vous le président du conseil départemental élu de la ville de Reims, en ne parlant que de Reims, ou vous allez avoir le souci du monde rural ?
Alors oui, je suis né à Reims, mais je ne serai pas l'élu de Reims, je serai l'élu de la Marne. Et je l'ai dit dans mon discours, je serai garant de tous les hommes et de tous les territoires qui composent ce département.
D'ailleurs, vous vivez à Merfille, enfin ce n'était pas tout à fait Reims, donc vous connaissez quand même la vie rurale. Hein.
Alors, je suis né à Reims et ça fait 35 ans que j'habite à la campagne, alors campagne proche de Reims effectivement, mais surtout sur ces dernières années, je suis aux côtés de mon épouse qui elle-même est devenue maire de Merfille, et donc je me rends compte aussi des difficultés en réalité, en direct.
Sur le terrain.
Sur le terrain.
Jean-Marc Rose, on a regardé un petit peu le calendrier. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu de Rémois élu comme président d'un conseil général ou conseil départemental depuis quand même pas mal d'années. Vous avez, il y a un Rémois, je crois, qui l'a été.
Alors oui, sur 230 ans, depuis le temps qu'existe le conseil départemental, qui s'appelait conseil général avant, il y a eu un seul Rémois avant moi, c'était Paul Marchandeau.
Il y a des points communs avec vous ?
Alors justement, je me suis intéressé, puisque nous sommes deux en 230 ans, je me suis quand même intéressé à l'histoire de Marchandeau, qui a été maire de Reims. Mais Marchandeau, Paul Marchandeau, a été élu du même canton que le mien, puisqu'il était élu du 3e canton de Reims, et moi je suis élu du 9e. Il y a eu une refonte des cantons, et le 9e faisait partie, en tous les cas fait partie du 3e.
Et puis aussi, il avait, j'allais dire, une appétence, comme on dit aujourd'hui, pour les finances quand même.
Alors effectivement, je le suis aux finances comme lui l'était, mais à un niveau quand même différent, faut bien le reconnaître, puisque Paul Marchandeau était ministre des Finances dans la Troisième République sous le gouvernement d'Aladier.
Alors que vous occupez des finances à la ville de Reims et au Grand Reims. D'ailleurs, est-ce que vous allez conserver ces responsabilités des finances à la ville de Reims et au Grand Reims ?
Alors légalement, je pourrais conserver ces responsabilités, mais décemment et même, je pense, logiquement, un président de département a quand même beaucoup de travail et j'estime qu'il était préférable que je démissionne de ses fonctions.
Pour être président à plein temps.
Pour être un président à plein temps du département de la Marne.
Jean-Marc Rose, récemment, dans le quotidien L'Union, qu'on dit quand même tous les jours, bien évidemment, sous la plume de Guillaume Lévy, on a évoqué votre parcours. Et beaucoup l'ont découvert. Moi, je le savais, mais ça m'a remis un peu en mémoire. Vos parents, père et mère, étaient sourds et muets dans des conditions un peu différentes, mais ils étaient tous les deux sourds et muets.
Alors oui, sourds et muets, on dit d'ailleurs, on disait sourds et muets à l'époque, c'est devenu malentendant et maintenant déficient auditif. En fait, sourds et muets, c'est ma première langue, c'est la langue des signes. C'est comme ça que je me suis rendu compte de ce qu'était le handicap, et surtout d'ailleurs, Jean-Pierre, de la méchanceté ou de la bêtise des hommes qui regardent des handicapés. Ce qui fait que parfois on éprouve un certain malaise.
Alors justement, on va y revenir, mais aujourd'hui, en tant que président du conseil départemental, ça veut dire que vis-à-vis du handicap, vous allez avoir un regard tout à fait particulier.
Oui, alors ça, faut savoir que la solidarité, qui est l'action principale de du département, de tous les départements, représente 75% des budgets des départements. Dans la solidarité, il y a le handicap. Et moi, je souhaite, en tous les cas, avec mes collègues, et notamment ma première vice-présidente qui s'occupe en particulier du handicap, qui s'appelle Monique Dorgueil, faire en sorte que les handicapés, qui ne connaissent pas toujours leurs droits, puissent les connaître.
Alors justement, avant de revenir au dossier conseil départemental, dans votre itinéraire, votre parcours, quand vous êtes jeune, votre maman, c'était de naissance, et puis votre père, c'était au moment d'un bombardement à Reims.
Oui, mon père, même ma mère a eu cette maladie de naissance, et mon père, il a subi dans son lit d'enfant un bombardement à côté de sa maison, et il a perdu l'ouïe et un œil d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une convulsion.
Alors donc, vous avez été marqué tout de même par ce parcours, mais ça ne vous a pas empêché de prendre des initiatives exceptionnelles. D'abord, vous étiez dans le monde du silence avec ses parents, et vous avez aimé beaucoup le monde de la musique.
Oui, alors je me demande si inconsciemment, c'était pas, j'aimais la musique, mais j'ai surtout été percussionniste, batteur. Et parce que les malentendants ne peuvent pas malheureusement entendre la musique, par contre, ils sentent les vibrations. Et c'est peut-être inconsciemment pour cela que je me suis mis à la batterie.
Et certainement que les Marnais aussi sentiront les vibrations de Jean-Marc Rose pour tout le département. L'entretien intégral est à retrouver sur le site rcf.fr, rubrique programme dans le 7h et 8h de ce matin. Jean-Marc Rose, président du département de la Marne, au micro de Jean-Pierre Benoît.
À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Une petite dizaine de minutes encore à passer ensemble à 18h51 jusqu'au 24 novembre. Près de 2500 collégiens et lycéens vont assister à la pièce de théâtre Le Coup de Grâce, puis échanger avec des professionnels de l'adolescence sur le thème du mal-être pour évoquer les problématiques liées à cette période parfois difficile. Pour nous en parler, Daniel Béra, vice-président du département de la Marne, en charge de l'enfance et de la famille, maire de Vauchamp et vice-présidente de la communauté de communes de la Brie Champenoise. Elle est avec Christopher.
Bonjour Daniel Béra.
Bonjour aussi.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Alors, on va plutôt prendre la casquette de la vice-présidente du conseil départemental de la Marne pour nous parler de ce coup de grâce, j'ai envie de dire, cette pièce de théâtre à l'initiative du département de la Marne. Quel est l'objectif principal, Daniel Béra, de proposer cette pièce de théâtre ?
L'objectif, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience du mal-être des jeunes. On les connaît bien, les jeunes, puisque le département a en charge les collèges. Et on connaît bien toutes ces difficultés qui sont liées aux mauvais traitements, qui sont liées aux addictions. On a des jeunes qui sont fragiles. Donc voilà, cette prise de conscience nous a amené à proposer cette action qui va être, c'est vrai, une pièce de théâtre, on peut le dire, mais pas seulement. Il y a tout un temps d'échange qui est nécessaire de façon à pouvoir mettre, comme on aime le dire, des mots sur les mots de ces jeunes.
Bien sûr. Alors, cette pièce de théâtre créée par la compagnie du Sans Souci,
Sans Souci,
à destination des jeunes.
Voilà, tout à fait. Ça se présente comme une émission de télé-réalité. Il y a donc quatre jeunes qui vont être représentés, on va dire, durant ce temps de théâtre, de spectacle. Et chaque jeune présente une des difficultés que peuvent rencontrer nos ados. Ça va donc amener une réflexion, forcément. Les jeunes vont se demander, vont peut-être se sentir concernés, plus ou moins, selon leur vécu. Et petit à petit, ils vont comprendre ce qui se passe et peut-être se sentir impliqués. Et donc, ça va permettre d'ouvrir le dialogue pour le débat qui suit. Les quatre jeunes représentés, donc il y a Emma, Eddy, Ida et Thomas. C'est vrai qu'on a des jeunes qui ressentent un mal-être. Ça peut venir de leur vie, on connaît beaucoup de jeunes avec des troubles alimentaires, par exemple. C'est vrai que dans certaines familles, et moi je le dis parce que j'étais moi-même enseignante, donc j'ai pu le constater, certains jeunes n'ont pas de repas réguliers à table. Enfin voilà, ces repas qui amènent quand même un équilibre et puis qui amènent aussi des discussions avec les parents. Voilà, parfois ça peut manquer ce genre de moments privilégiés dans la famille. Le décès d'un proche peut également amener ce mal-être, une rupture amoureuse, parce que ils sont à l'adolescence, voilà, confrontés à ces événements-là. La séparation des parents, bien souvent, peut amener aussi
des problèmes familiaux en général.
Oui. Le décrochage scolaire, c'est vrai qu'on a des jeunes qui ont parfois du mal à s'y retrouver. Dans l'enseignement général, enfin voilà, on est quand même sur, il faut acquérir des diplômes, c'est pour certains difficile à envisager. Il y a le harcèlement qui est quand même une cause importante, et puis toutes les conduites à risque avec les soirées bien arrosées, avec ce qu'on voit aussi sur les jeux vidéo qui entraînent parfois des excès dans les comportements.
Daniel Béra, vice-président du conseil départemental de la Marne, avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter cette pièce de théâtre à destination des jeunes, mais pas seulement, on en parlera dans un court instant. Une pièce de théâtre qui sera accompagnée, vous l'avez dit il y a quelques instants, d'un temps d'échange avec des professionnels de l'adolescence. Un rendez-vous, vous le disiez, essentiel parce que la pièce de théâtre ne suffit pas, il y a besoin d'échanger autour d'un sujet bien sensible pour les jeunes.
Bien sûr. Et parfois, les jeunes n'ont pas toujours l'interlocuteur. C'est pas facile d'en parler aux parents. Et d'avoir c'est un outil qui est proposé, donc un outil pour aussi bien les enseignants que les parents, bien sûr, puisqu'on a des professionnels donc qui sauront jaillir les mots, oui, qui sont nécessaires. On a besoin de pouvoir les exprimer. Et ce débat, je pense, ce que j'ai pu en entendre, parce que je n'ai pas encore assisté, moi, à la pièce, mais j'ai eu des témoignages d'enseignants qui m'ont dit qu'ils étaient eux-mêmes surpris de voir comment les jeunes étaient pris par l'action, par ces témoignages, parce qu'on peut parler de témoignages, je disais que c'était une émission un petit peu, un genre d'émission télé-réalité. Donc, tout d'un coup, ils avaient envie d'en parler eux-mêmes, quoi.
Des représentations donc à destination des étudiants, mais aussi du grand public, vous le disiez
tout
quelques instants, c'est bien de sensibiliser les jeunes, mais aussi les parents, et ce sera le cas à travers ces représentations grand public.
Tout à fait. 20 représentations sont prévues au total. Il y en a 14 dans les établissements scolaires, donc un petit peu répartis sur l'ensemble du département. Déjà l'an dernier, on a eu plusieurs représentations dans divers collèges et lycées. Et 6 représentations tout public, et en général dans les endroits où les collèges auront été touchés. Donc on a par exemple le 13 novembre, le lundi 13 novembre à 19h30, à la salle Odile Cop à Épernay. Ensuite, le mardi 21 novembre à 19h30 au Conservatoire de Reims. Le jeudi 23 novembre à 19h30 à la salle des fêtes de Pontfaverger. Et le vendredi 24 novembre à 19h30 à la cité Valmy à Sainte-Menoux. Donc ce sont des moments, qui sont importants, parce que c'est vrai que les parents parfois ont du mal aussi à trouver comment entrer en dialogue avec leurs jeunes. L'adolescence n'est pas une période très facile. Et d'autres personnes, je pense, peuvent être intéressées, des professionnels. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. C'est 6 représentations tout public. Ça dure à peu près une heure, la pièce. Il y a ensuite le temps du débat. Et puis, l'entrée est gratuite. Il faut par contre s'inscrire sur www.marne.fr.
Voilà, c'est important de s'inscrire, même si l'entrée est gratuite. C'est bien pour le côté logistique de ces différentes de soirées. Donc, on le disait, 20 représentations au total, dont 6 grand public, 14 dans les établissements scolaires pour ces 2500 jeunes collégiens et lycéens de la Marne. On le rappelle, le coup de grâce, une pièce de théâtre proposée par le département de la Marne qui se tiendra du 9 au 24 novembre. Merci beaucoup, Daniel Béra, d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui en ligne sur RCF, je rappelle, vice-présidente du conseil départemental de la Marne en charge de l'enfance et des familles. À très bientôt.
À bientôt. Merci.
Une belle initiative que l'on remercie Daniel Béra, évidemment, comme vous l'avez fait, Christopher, et vous, hein, Christopher Fausten, de nous avoir présenté Inscription fortement conseillée sur le site du département marne.fr. Les programmes de ce mardi, ce sera le magazine régional à 18h10, évidemment, sur RCF Cœur de Champagne, RCF France Ardennes. Voilà, heureusement que c'est la fin de journée, hein, parce que là, on sent que ça fatigue un petit peu. Vous retrouverez notamment Jannick Lombard, maire de Launois-sur-Vence, dans les crêtes pré-ardennaises. On ira aussi du côté de Poitéron cette semaine avec Anoudar. Ça sera d'ici quelques jours. Et puis l'invité demain matin à 7h sur RCF France Ardennes et Jackie Weiss, que lentement passe les heures. Il est l'auteur de cet ouvrage. Voilà pour le teasing de ce mardi. Dans quelques instants, c'est la rédaction nationale de RCF qui prend le relais avec toutes les infos au niveau national et international. Et puis sur RCF France Ardennes de nouveau à 19h12, la méditation quotidienne. Très bonne soirée en compagnie de RCF.